Bonjour et bienvenue dans les mises en son de Rémi. Pour ce second numéro, voici donc la suite et la fin, bien sûr, de La sieste au bois dormant. Avant de lancer l'écoute, j'adresse un grand, un immense et surtout un chaleureux merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter, de partager l'épisode et de m'envoyer parfois même des messages très touchants. Vraiment, merci, merci, merci. Alors, si jamais vous arrivez juste là, si vous n'avez pas entendu la première partie, je ne peux que vous inviter à aller l'écouter. Là, dans cet épisode, vous entendrez donc comment j'ai pu un jour ressentir exactement la même peur que le petit Pousset, comment l'une de mes tantes m'a vraiment fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. C'est un moment que j'affectionne beaucoup dans le spectacle. Je vous parlerai aussi de la petite fille aux allumettes et de ma grand-mère, et enfin de mon copain Rachid avec qui je papotais dans le coin calme quand on était à la maternelle. J'espère que vous plongerez dans la rêverie avec le même plaisir que sur le premier épisode. Vous allez voir, l'univers est tout aussi enfantin et naïf. Voici donc la deuxième partie de La sieste au bois dormant. Je vous retrouverai juste après pour vous dire un petit mot. A tout à l'heure donc. Là, tout de suite, ça commence dans une forêt. J'ai une photo de classe où je suis le seul à faire la tête. Le seul à ne pas sourire. C'était une belle journée pourtant. Comme on avait ri. Une longue journée dans une immense forêt, à faire des cabanes. On avait le droit, nous, de faire des cabanes pendant les sorties scolaires. La journée se terminait avec des échardes plein les doigts. Ça faisait mal, mais comme on était fiers. Ce jour-là, c'était pour notre copain Samuel qu'on avait construit une cabane. Samuel était sûr que ce bois-là, c'était sûrement celui du petit Pousset. Le bois idéal pour abandonner quelqu'un. Et ça tombait bien, car Samuel voulait abandonner ses parents. Quand il se faisait gronder, on avait déjà vu ça à la sortie de l'école, il hurlait « De toute façon, c'est pas vous mes parents, c'est impossible parce que vous êtes trop méchants, toi t'es pas mon papa, toi t'es pas ma maman !» Il avait déjà essayé. Le plus loin qu'il était allé, c'était au supermarché, caché dans le photomaton, et avait ses pieds qui dépassaient. Mais là, il avait tout prévu. Tracer un grand chemin avec des bocs de marron pendant la balade, l'air de rien. Et si jamais ça ne marchait pas, s'il n'arrivait pas à abandonner sa maman, son papa, c'est lui qui viendrait vivre tout seul dans cette cabane. Il apprendrait à chasser, cueillir des fruits, cultiver des légumes. C'était toujours ce que faisaient les personnages dans les histoires quand ils étaient perdus ou abandonnés. Donc à la fin de la journée, la maîtresse a pris cette fameuse photo. De la terre sur les genoux, sous les ongles, il y en a même une qui a de la terre dans les oreilles. Tout le monde sourit dessus, sauf moi. Parce que ce jour-là, juste après le goûter, j'ai mal au ventre. D'un coup, tellement mal au ventre qu'en descendant du car, on m'emmène directement à l'hôpital. C'est l'appendicite. À cette époque, les vieilles personnes et les enfants peuvent être dans une même chambre. Et dans la mienne, il y a un vieux monsieur avec une grosse voix. Une vieille grosse voix. Il tousse beaucoup. Le soir, on a de la soupe et du pain. En buvant sa soupe, il fait... J'ose pas manger la soupe.
Faut la manger, ta soupe. Ça fait grandir.
J'ose pas manger mon pain.
C'est bon, le pain. Tous les enfants que je connais, ils aiment le pain.
Tous les enfants que je connais ? Pourquoi il connaît beaucoup d'enfants, lui ? Et là, je comprends. C'est un ogre. Il est peut-être pas gros comme un ogre, mais justement, si ça se trouve, c'est un ogre qui a trop maigri et c'est pour ça qu'ils l'ont emmené à l'hôpital. J'ose pas manger tout court. Si je mange, je grossis. Et en grossissant, je deviens encore plus appétissant. J'ai tellement peur de lui que j'ai même plus mal au ventre. La nuit tombe. Je veux rester réveillé. J'ai trop peur du monsieur, de cet ogre amaigri.
Il s'endort assez vite. En dormant, il parle. Sa voix grossit encore, parce qu'il a trop mangé. Je suis terrifié, horrifié, terrorifié. Impossible de m'endormir. Je me sens abandonné, comme le petit Pousset, comme quand il lâchait l'ogre. Il faut que je m'échappe, mais j'ai peur à ce moment-là. Et à cette époque, on disait toujours aux garçons comme ça.
Oui, mais les vrais garçons, ils sont jamais peur. C'est vraiment les petits qui ont peur.
C'était n'importe quoi de dire ça. Quand tu me regardais dans le miroir, je voyais bien que j'étais petit. Et j'avais pas forcément envie de devenir grand. Il ronfle. Je garde les yeux fermés en m'étouffant. rapprochera. Plus il ronfle fort, plus j'ai l'impression qu'il se rapproche de moi. J'ouvre grand les yeux. Il est toujours dans son lit. Et là, je pense, mais comment il ferait le petit poucet à ma place? Comment? Même mon copain Samuel, comment il ferait? Et là, je trouve la cabane qu'on a fait pendant la journée. C'est là-bas que je dois aller. Je sors à pied du lit. Il fait froid, mais tant pis. J'ai réussi à sortir mon corps dans le noir. Je cherche mes chaussures sur le sol sans allumer la lumière. J'y trouve pas. Mais là, je me rappelle du coup des bottes des 7 lieues. Les pantoufles de l'ogre sont au pied de son lit, rayés vert et rouge foncé. Je les prends, je les mets. J'attrape ma veste sur le bord de mon dos et je sors de la chambre sans faire de bruit.
Quand je marche dans les couloirs, je vois dans les chambres des malades qui dorment dans leur lit. Mais certains dorment avec les yeux grands ouverts, ça fait trop peur. Et marcher avec les pantoufles de l'ogre me fait pas aller plus vite. Au contraire, c'est trop dur. Mais je me dis que si je les quitte et qu'il les retrouve, il peut me rattraper. Voilà, je les garde, je tombe. Et juste devant moi, il y a un chariot avec des pansements et des médicaments dont j'arrive pas à lire les noms parce que dessus, ils ont mis trop de X, de Y et de Z. D'un coup, j'entends l'ogre qui marche dans le couloir. Je trouve un bureau où il y a personne, je rentre, il y a une grande blouse blanche. Je la prends, je me cache dessous. Et j'entends dans le couloir l'ogre qui parle aux infirmières et qui leur dit:
qu'est-ce qui s'est passé? Le gosse qui était à côté de moi, il a disparu. Il est plus dans la chambre. Il faut le retrouver.
Il était très inquiet. Il avait peur pour moi. C'était pas un ogre. Tout le monde me cherchait dans l'hôpital. Et bien sûr, je suis jamais retourné à la cabane. Tu peux pas revivre un moment de ta vie. Quand j'écoutais les histoires, je me disais que les personnages sur les disques, eux, ils pouvaient revivre des moments de leur vie. Revivre les choses, toutes leurs aventures. Je pouvais aussi leur faire sauter un passage trop difficile de leur vie si je voulais. Le transformer, l'accélérer, le mettre à l'envers. En écoutant les histoires, je me disais parfois que moi aussi j'aurais vraiment aimé pouvoir faire ça, pour ma vie de moi. Accélérer le moment où à l'école, je me suis fait disputer parce que sans faire exprès, j'avais coincé les doigts d'un plus petit que moi dans une porte. Revivre la toute première fois où j'ai réussi à nager sans les brassards. Et sauter le moment où pendant les grandes vacances, avec mes cousins et mes cousines, moi j'étais le plus petit, on avait fait une course d'escargot. C'est le mien qui avait gagné. Et mon cousin l'a écrasé comme ça, j'bah! Enfin, si on faisait pas attention au disque, on pouvait rayer la vie des personnages et les empêcher de vivre un grand moment. Je me disais que ça, par contre, dans la vie, ça arrivait à tout le monde. Je me disais, la vie, des fois, ça fait des rayures quand il faut pas, au mauvais moment. Dans la vie, tu peux pas arrêter ta musique. Tu peux pas arrêter ton histoire. Un soir où ma mère travaillait tard, mon père travaillait pas, mais personne ne savait où il était. C'est une de mes tantes qui m'a gardé. Des tantes, j'en avais plein. Celle-là, c'était la plus jeune. Comme elle dansait bien. Son surnom, c'était la reine de la piste. La reine. C'était trop bien d'avoir une tante qui était reine de quelque chose. Dans sa chambre, elle avait des vinyles pour faire danser n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. J'aimais bien fouiller dans sa collection. Elle avait des disques de Madonna. Trop belles sur les pochettes. Ça me faisait un peu de l'amour, je crois. Je me disais que plus tard, si je faisais star ou vedette comme métier, je pourrais sûrement la rencontrer et peut-être même me marier avec elle. Au judo, un copain m'avait dit que quand je serais adulte, plus tard, forcément Madonna serait vieille et que j'aurais sûrement plus du tout envie de me marier avec elle. C'était n'importe quoi ce qu'il disait. Ça faisait rien si elle était plus vieille. Et la vérité, c'est que même si les années ont passé, Madonna n'a jamais vieilli. Le soir où ma tante me garde, elle doit m'emmener manger à Flinch. Flinch, c'est le seul restaurant où quand ton assiette est finie, tu peux te resservir en tout ce que tu veux si tu veux. Pâtes, légumes, frites, purées, mais tu peux pas reprendre de steak, de saucisse ou de poisson pané. Trop content de sortir avec ma tante. Elle mettait toujours très longtemps pour se préparer, se maquiller, devant son miroir, son beau miroir. Ses ongles sont longs. Ce soir-là, elle les a vernis en noir, noir brillant. Elle porte des vêtements en sky. Devant son miroir, son beau miroir, elle s'entraîne à faire des regards mystérieux, envoûtants. Sur le cadre, il y a des photos d'elle, des polas, avec des gens en train de danser. Et sur ces photos, il y a toujours des voitures où dessus il est écrit GTI ou Turbo D. Elle a aussi une grande collection de parfums. Enfin, c'est surtout des échantillons. Elle m'a mis du gel pour faire une raie sur le côté. Elle m'a donné un échantillon de parfum pour homme. Ce soir-là, si je voyais Madonna, j'étais sûr que je pouvais lui plaire. À Flinch, ma tante doit retrouver son fiancé. C'est un joli mot, fiancé. Elle essaye de l'appeler, mais il répond jamais au téléphone.
La reine ne se doutait de rien. Elle était tellement sûre que Blanche-Neige était morte qu'elle passa plusieurs semaines sans consulter son miroir magique. Un soir, pourtant, elle pensa qu'elle devenait négligente et qu'on ne prenait jamais assez de précautions.
Pour y aller, Dalila, une copine à elle, passe nous chercher. À la radio, il y a une chanson de Bibi Flash. Assise devant, ma tante et sa copine n'arrêtent pas de rire. Mais comme c'est des blagues de grande, je comprends rien. Alors assis derrière, je regarde la nuit, les panneaux des publicités, les lampadaires. En secret, je pense à Madonna. Je me dis que ce soir, à Flinch, je vais la croiser. C'est mon conte de fées du samedi soir. À Flinch, il y a plein de choses à manger. On choisit une table pas trop loin de la fontaine à eau. Par la grande vitre, d'un coup, on voit le fiancé de ma tante qui arrive à toute vitesse dans sa voiture en forme de GTI. La musique de sa voiture est tellement forte qu'on n'entend même plus la musique dans Flinch. Et c'est dommage parce qu'à ce moment-là, c'est Madonna. Il y a tellement de gel dans ses cheveux que sur lui, ça brille dans la nuit. Et dans sa voiture, il y a déjà une fille avec lui. Elle est jeune. Et bien plus jeune que ma tante, je crois. Et jolie même. Le visage très blanc. Et les cheveux très noirs. Quand elle voit ça, ma tante change de tête. Elle se lève, marche à toute vitesse vers le parking. Dalila me dit de rester à table et que je peux me resservir en tout ce que je veux si je veux. Sauf steak, saucisse et poisson pané. Je vais prendre des frites. Je reviens à la table, je mange. Ma tante est toujours dehors. Elle et son fiancé ont l'air en colère. Très en colère. Les frites sont finies. Je demande à Dalila si je peux aller prendre de la purée. Elle me dit oui. Je reviens à la table. Je mange ma purée. Dehors, ma tante, son fiancé et maintenant la jeune fille ont tous l'air très en colère. Ils se disputent tellement fort que tous les clients dans Flinch les regardent à travers la grande vitre. Comme les gens sont devant, je vois pas ce qu'ils font. J'entends pas ce qu'ils disent. Si, à un moment donné, j'entends juste «
T'es maquillé comme un camion !»
La dispute a duré tellement longtemps que j'ai eu le temps de me resservir. Pâtes, frites, purée, frites, frites, haricots, pâtes, purée, frites. À un moment, il hurle
« Mais regarde ta tête de vieille sorcière !»
Les portières ont claqué et il a démarré à toute vitesse en emportant avec lui la jeune fille aux cheveux très noirs dans sa voiture en forme de GTI. C'était une grosse dispute. Ma tante est revenue dans Flinch, un essuie-glace dans chaque main. Une fois assise à table, elle a sorti un petit miroir, puis s'est regardée dedans. Le maquillage coulait sur ses joues. Ça faisait triste.
Le miroir devint trouble, comme s'il était couvert de buée. Puis il s'éclaircit, et la reine y vit une clairière, dans la forêt, avec une toute petite maisonnette, et Blanche-Neige qui cueillait des fleurs tout autour.
Elle avait pas faim. C'est dommage, parce qu'on pouvait se resservir ici. Dalila m'a dit « Rémi, va chercher une pomme pour ta tante, s'il te plaît. » J'y suis allé. Des pommes, il y en avait plein. Forcément, personne vient à Flinch pour prendre une pomme au dessert. J'en ai choisi une toute rouge et toute brillante. En retournant vers la table, j'ai vu que sur le visage de ma tante, il n'y avait plus de la tristesse, mais de la colère. Elle avait la même tête que la méchante reine dans Blanche-Neige. J'aimais pas qu'elle soit en colère. J'ai eu peur qu'avec la pomme, elle aille empoisonner la jeune fille qui était partie avec son fiancé.
Elle se déguisa, mit la pomme dans un petit panier et enfourcha son balai de sorcière.
J'ai reposé la pomme, j'ai dit qu'il n'y en avait plus. Depuis ce jour-là, elle a toujours été un peu méchante, mais moi je savais bien qu'au fond, elle était gentille. Ce soir-là, j'avais compris que dans la vie, c'est la tristesse qui rend les gens méchants. Madonna est même pas venue. Mais de toute façon, j'ai décidé de plus être amoureux d'elle parce que je voulais pas qu'un jour... on se dispute comme ça.
Ce soir ensemble, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout.
Une fois, je suis retourné dans mon école maternelle. Ça m'a paru tout petit. Je me suis demandé si ça me paraissait tout petit juste parce que mon corps était devenu trop grand. Trop grand pour tout ce que j'aimais étant petit. Au CP, si on faisait une bêtise à la cantine, les dames nous disaient
« Si vous vous comportez comme des bébés, vous allez retourner en maternelle. »
Personne n'avait envie de retourner en maternelle. Enfin, C'est ce qu'on disait. Mais là, maintenant que je suis grand, je me dis que parfois j'aimerais bien y retourner. Le problème, c'est qu'une fois grand, c'est dur de trouver une bêtise qui peut te faire retourner en maternelle. Les histoires, au moins, ça change jamais de taille. Ça reste grand. Et quand ça plaît, c'est pour toute la vie. Un jour, la maîtresse nous a fait écouter l'histoire de la petite fille aux allumettes. Ça parlait d'une petite fille pauvre, enfin même très très pauvre, qui vendait des allumettes aux passants. Dans le conte, son métier, c'est ça, vendeuse d'allumettes. Son problème, personne veut lui en acheter. C'est le dernier jour de la fin de l'année, il fait froid, il y a même un peu de neige, et la petite fille aux allumettes n'a même pas de chaussures. Il y a presque plus personne dans la rue. Tout le monde est avec sa famille pour partager un bon repas, manger des bonnes choses comme par exemple du foie gras de saumon, quelque chose comme ça. La petite fille aux allumettes n'ose pas rentrer chez elle. Comme elle n'en a pas vendu beaucoup, elle n'a pas gagné beaucoup d'argent, et sûrement son père va piquer une grosse colère, peut-être même la frapper, mais ça on ne sait pas. Elle a trop froid, alors elle craque une allumette pour essayer de se réchauffer. Quand elle l'allume, comme par magie, juste devant elle, apparaît un poêle à bois qui la réchauffe. Elle est trop contente. Mais le truc, c'est que le poêle disparaît quand l'allumette s'éteint. Alors elle en rallume une deuxième. Et là, c'est trop bien, c'est trop beau. Une grande table apparaît devant elle. Dessus, il y a un bon repas qu'elle pourrait partager avec une famille. Bien sûr, l'allumette s'éteint. Il n'y a plus rien. Elle a faim. Et il fait encore plus froid. Alors elle allume une troisième allumette. Là, un sapin de Noël apparaît et il s'envole dans la nuit comme ça, avec toutes ses guirlandes qui se transforment en étoiles. Parmi les étoiles, il y en a une, c'est sa grand-mère, montée dans le ciel. Comme c'était la seule personne qu'il avait aimée, pris soin d'elle, la petite fille craque toutes ses allumettes pour rester le plus longtemps possible avec sa grand-mère en forme d'étoile. Sa grand-mère la prend dans ses bras et elles restent ensemble pour toute la vie. Ou plutôt pour toute la mort, c'est ce qu'on avait compris. C'était une histoire triste, mais comme dedans, et il y avait de l'amour de mamie, ou de mémé, suivant comment tu dis, tout le monde aimait. Tout le monde aime l'amour. On était quelques-uns à plus avoir nos grands-pères ou nos grands-mères. Alors on a voulu essayer. En douce, on s'est mis à collectionner les allumettes. À la sortie des bureaux de tabac, on en demandait aux gens qui sortaient avec un paquet de cigarettes. Ils disaient pas toujours oui, mais un jour, il y a quand même une dame qui nous a donné un briquet. Là où j'ai trouvé le plus d'allumettes, moi, c'était au café où mon père allait tous les dimanches matins. Quand enfin on en a eu plein, on est parti dans un des bâtiments où il y avait des caves. Pour descendre, ça faisait peur. Fallait mettre la lumière qui durait vraiment pas longtemps, puis courir dans les escaliers pour arriver aux caves avant que ça s'éteigne. Sur le sol, c'était de la terre mouillée. Ça sentait la pluie, et les mobilettes aussi. Une fois installés dans le noir, on a essayé à chacun notre tour. On s'est fait mal aux doigts parce qu'on tenait pas très bien les allumettes. Quand la première s'est éteinte, et qu'on n'avait pas encore vu nos grands-parents, on s'est dit que peut-être il fallait le temps au pépé ou au mémé d'arriver. Dans l'histoire de la petite fille aux allumettes, sa grand-mère arrive pas tout de suite. On les a pas vus. On a essayé avec le briquet, mais ça marchait pas non plus. Et puis ça faisait encore plus mal sur le bout des doigts. Alors on a tous fermé les yeux. Et pensé très fort à nos papis, nos mamies, nos pépés, nos mémés. On les imaginait en train de voler comme ça dans le ciel. Leurs rides étaient belles. On sentait leur parfum. C'était de l'eau de Cologne. Moi, ma grand-mère, je la voyais avec sa petite radio rouge qu'elle mettait dans sa poche, en douce, pour aller au stade et écouter son tiercé pendant que moi, juste à côté, je mangeais mon goûter. Le monsieur dans la radio avait beau parler très fort, elle écoutait toujours à fond. Parfois même, plus le monsieur parlait fort, plus elle montait le son. Quand elle gagnait, elle souriait, et on allait m'acheter des bonbons. Et bien sûr, elle rejouait. Je pensais à tout ça. Je souriais à ma grand-mère, elle souriait aussi et me donnait sa petite radio rouge. Finalement, pour les voir, fallait pas craquer d'allumettes. Les gens qu'on aime, pour les voir où on veut, il suffit juste de fermer les yeux.
Chacun attend d'elle qu'elle gagne ce prix d'Amérique. Monsieur Toscan, son camarade d'écurie et vainqueur du prix d'Amérique l'année dernière, est venu à côté de Une de mai. Jeannot Goujon qui mène Une de mai, Minou Goujon qui mène Toscan vont passer maintenant tous les deux à l'attaque. Agonard est encore à la corde. À côté, c'est Vaninabé, derrière les deux Montesson, et puis Meurimir et Petit Dalium Pello qui va beaucoup mieux aujourd'hui.
Quand on sortait avec mes parents et ma sœur, et c'était pas souvent, je prenais toujours un de mes disques avec moi. Même si là où on allait, il n'y avait pas de quoi écouter, C'était pas grave. Je fixais la pochette. Et je la regardais avec tellement d'amour que j'arrivais à entendre les voix des comédiens et des comédiennes gravées sur le disque. Tout. Parfois, il y avait aussi l'histoire qui était écrite à l'intérieur de la pochette. Alors si je pouvais pas écouter, je lisais.
Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez.
Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, puis mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit de l'herbe dans son sac et attendit. Et à force de les écouter et de les réécouter, de les lire et de les relire, déjà tout petit, je me suis mis à les raconter. À l'école en grande section, j'avais donc mon copain Rachid. Il était un peu comme moi. Il adorait les histoires sur les disques. Comme on n'avait pas les mêmes, on se les racontait. Même que des fois, on en inventait. Enfin, en gros, hein. On changeait juste les prénoms des personnages principaux et on racontait un peu toujours les mêmes scénarios. Nos couchettes pour faire la sieste, elles étaient côte à côte. Et alors que presque tous les autres garçons, en douce, se montraient des images avec des têtes de foot, Rachid et moi, en douce, on se montrait nos disques. Et juste avant de s'endormir, dans le coin calme, on se racontait des histoires. Rachid, il aimait trop quand je lui racontais la Belle au bois dormant. Bien sûr, il fallait pas raconter trop fort, sinon la maîtresse allait nous séparer. Je lui racontais la Belle au bois dormant, et il s'endormait. Et quand tout le monde dormait, moi, je regardais la classe. Et là, je planais. Je me faisais un film. Ouais. Je me demandais, comment il pouvait bien être ce bois dormant ? Hein ? Comment ? Et après, je pensais, et si quelqu'un dans la classe s'est piqué avec le fuseau d'un rouet et qu'on n'est pas au courant ? Tiens, par exemple, une de ces petites filles-là qui travaille si bien et qui vit dans une jolie maison de lotissement. Si jamais cette fille, Lorraine par exemple, s'est piquée et que tous autant qu'on est, dans l'école, dans la ville, dans la France même, si tous, on se met à dormir pendant 100 ans. Et monta alors en moi une petite angoisse, mais pas désagréable. Je me disais, et si jamais, ma mission c'était de ne pas m'endormir, s'il fallait que je parte à travers d'autres pays, d'autres mondes même, seul pendant 100 ans, pour revenir un jour et libérer le royaume.
Vous savez comment elle commence.
Écoutez! Écoutez tous! La princesse grandira belle et gracieuse jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se percera le doigt au fuseau d'un rouet. Et sa vie s'arrêtera.
Oh mon Dieu, c'est le loup.
Je vais souffler sur votre sale vieille cabane de paille.
L'enfant resta seul.
Nous sommes là.
Mes frères, n'ayez pas peur. Je vous ramènerai au logis. Suivez-moi.
Mais j'ai jamais osé partir. J'avais trop peur de me faire disputer par la maîtresse. Je finissais donc par m'endormir. Mais ça m'allait bien aussi. Je rêvais que je montais sur un cheval qui courait à travers les royaumes. Je quittais la France. Très vite, j'arrivais en Chine. Juste avant, j'étais passé par l'Inde. Puis j'ouvrais une porte. J'étais dans une forêt allemande, pleine de neige. Il y avait des fées. Elles connaissaient toutes mon prénom. Elles me donnaient un peu de poussière. Il y avait aussi des nains qui me tendaient la main si ça allait pas. Le chaboté me donna un sac et me disait « Tiens Rémi, ça c'est de la part du marquis. » Cendrillon me courait après en me disant « Hé toi, viens voir, t'as fait tomber un truc. » Et à force d'aller dans tous ces rêves remplis d'histoires, je savais exactement quand dormaient les ogres et à quel moment prendre leurs bottes des 7 lieues. Génial. Le rêve se termine, je me réveille. Dans la classe, il n'y a plus personne. Tous les autres ont disparu. Ils sont pas en récréation, non. Ils sont déjà chez eux, oui. Il est presque 5 heures. Les dames de ménage dans le couloir, elles ont presque fini. Dans la classe, la maîtresse a déjà passé son manteau, effacé le tableau et même écrit la date du lendemain. Dans le cadre de la porte, je vois mon grand-père Diego, Il m'attend, ma veste entre ses mains. La maîtresse s'approche de moi et me demande « Alors Rémi, ça t'a fait du bien cette sieste ?» Et moi je lui réponds « Oh oui maîtresse, parce que c'était une sieste au bois dormant. » Voilà, c'est donc fini. Vous connaissez maintenant toutes les histoires et l'univers de la sieste au bois dormant. Ce qui ne vous empêche pas de venir voir le spectacle en vrai si jamais il passe près de chez vous, ou bien même très loin et que vous avez vraiment envie de faire le déplacement, bien évidemment. Comme pour le premier épisode, si vous souhaitez faire découvrir tout cela autour de vous et même plus loin encore, n'hésitez pas, j'en serai tout à fait flatté. Et si vous souhaitez me contacter pour m'offrir vos retours en direct, c'est quand vous voulez, vous me retrouverez très facilement en tapant Rémi Ansel Salas. Encore merci pour votre attention, on se retrouve la prochaine fois avec l'adaptation d'un autre spectacle, mais je ne vous dis pas encore lequel. Merci encore et à bientôt.